Quand à la première lueur du jour, le chant des oiseaux me réveillait, il était déjà parti pour les champs avec ses animaux en prenant soin de me laisser dormir. Alors je me levais, pliais la couverture et pieds nus, de la paille encore dans mes cheveux, j'allais des parties cultivées à la porcherie près de la maison. Ma grand-mère, levée avant mon grand-père, posait devant moi un grand bol de café avec des tranches de pain et me demandait si j'avais bien dormi. Si je lui parlais de quelques mauvais rêves liés aux histoires de grand-père, elle me rassurait toujours. Les rêves n'ont pas de consistance. Et je pensais alors que ma grand-mère, malgré tout son savoir, n'arrivait pas à la cheville de mon grand-père qui, couché sous le figuier, près de son petit-fils José, était capable de mettre l'univers en mouvement avec seulement deux mots. Bien plus tard, alors que mon grand-père avait quitté ce monde et que j'étais moi-même un homme, j'ai compris que ma grand-mère aussi croyait aux rêves. C'est la seule interprétation que je donne à cet instant où elle était assise, une nuit, à la porte de la pauvre maison où elle vivait seule. Elle regardait au-dessus d'elle les étoiles grandes et petites et elle a dit « Le monde est si beau, j'ai tant de peine à l'idée de mourir ». Elle n'a pas dit qu'elle avait peur de mourir, mais qu'elle en avait de la peine. Comme si cette vie dure de travail qui avait été la sienne, en ce moment de presque fin, recevait la grâce d'une suprême salutation, la consolation de la beauté révélée. Elle était assise à la porte d'une maison comme il n'en existe nulle part ailleurs. Car dans cette maison avaient vécu des gens capables de dormir avec des cochons comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Des gens qui étaient tristes à l'idée de mourir parce que le monde était beau. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impaire, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est peut-être comme un rêve une grand-mère, si proche et lointain à la fois, qui dure après la nuit, dont on ne mesure pas les sources, tous les impacts, la profondeur d'un temps passé. J'ai compris que ma grand-mère aussi croyait aux rêves, nous dit l'écrivain portugais José Saramago dans le texte que je vous ai proposé en ouverture de cet épisode, un extrait de son discours de réception du prix Nobel de littérature prononcé en 1998 à Stockholm. Sa grand-mère Josefa qui se désolait de quitter la beauté du monde, qui a depuis rejoint un autre monde, celui des rêves. Il rêve aussi de victoires, de bouquets, de sprints déliés. Notre invité que je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui, le cycliste professionnel Jason Tesson, né à Angers il y a 27 ans, sprinter dans l'équipe Total Energy. Merci beaucoup Jason d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci à vous, bonjour.
Jason, première question rituelle de cette émission, c'est quoi le prénom de tes grands-mères?
Alors, ma grand-mère côté paternelle s'appelle Annick et ma grand-mère côté maternelle Raymonde.
Et alors Annick et Raymonde, c'est quoi leur surnom? Toi, comment tu les appelles?
Alors Annick, elle est décédée, mais nous on l'appelait Mamie Tesson. Et puis Mamie Raymonde, bah, c'est Mamie Raymonde, quoi, par son prénom, simplement.
Tu l'appelles Raymonde ou Mamie Raymonde? Non, c'est ça, c'est Mamie Raymonde.
Souvent c'est Mamie, mais quand on parle de... pour différencier, c'est Mamie Raymonde.
D'accord, ok. Voilà. Ou quand elle n'est pas là, c'est voilà, Mamie Raymonde, ça, pour qu'on comprenne laquelle des deux c'est. Donc Annick, qui n'est plus là aujourd'hui avec toi, est-ce que tu peux nous la décrire, nous en parler, nous dire qui elle était?
Ouais, je l'ai connue sur mes à peu près 10-12 ans, elle est décédée ouais, quand j'avais entre 10 et 12 ans. C'était une grand-mère avec beaucoup de caractère, beaucoup de caractère. Et elle habitait à Montplaisir dans le quartier même. Donc pour vivre là-bas, il fallait aussi avoir du caractère. Donc c'était un peu son côté à chaque fois qu'on parle d'elle ou qu'on se rappelle des souvenirs, c'est souvent ça. C'est le côté un peu maternel qu'elle avait avec nous au balcon quand il y avait des petites embrouilles, si je peux dire, voilà, dans le quartier. Donc c'est une partie de ma vie que maintenant je ne côtoie plus, mais c'était...
Ça veut dire qu'elle vous protégeait, tu sentais ouais. Une force, une protection, c'est un peu ça?
Ouais, c'est ça. En fait, elle avait ce côté respect de tous au niveau de son quartier devant chez elle. Tout le monde la connaissait par ce caractère qu'elle avait. Donc quand on avait des petits ennuis ou autres, mais c'était enfantin, hein, et ben en fait elle prenait dessus et voilà, et puis ça passait, et voilà, tout le monde la connaissait pour ça en tout cas.
Et il y avait, on a l'impression qu'il y avait une sorte de respect quoi pour elle dans le quartier, c'est ça?
Ouais, c'est ça exactement, le respect des personnes âgées, et elle l'avait complètement. Ouais.
Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie? Ça a été quoi son métier? Ça a été quoi ses loisirs, sa vie?
Ouais, bah moi je l'ai connue vraiment dans ces dernières années, donc en fait. Du moment où elle a travaillé, je pourrais pas te décrire trop sa vie, mais ses loisirs, c'était vraiment le jardin. Elle avait un jardin sur le bas de mon plaisir, où elle a retrouvé ses amis, et puis après c'était en fait la vie de quartier, c'était aller retrouver tout le monde, voilà, au bar, au PMU, enfin c'était vraiment la vie de quartier comme on peut le connaître ou l'imaginer. Voilà, c'est, ma grand-mère n'a pas beaucoup travaillé de ce que j'en entends et des souvenirs que j'avais. Voilà, une personne qui a vécu vraiment dans sa petite vie, dans son petit quartier, et qui a pas trop bougé.
Et vous vous rappelez d'elle encore dans la famille? Vous parlez d'elle?
Très peu, parce que déjà c'est que il y a quand même assez longtemps qu'elle est partie, mais c'est souvent mon père qui entame la discussion quand on parle des souvenirs, de leurs souvenirs d'enfance, etc. Il nous parle d'elle plus que de mon grand-père d'ailleurs. Voilà.
Et à quoi elle ressemblait si tu devais nous la dessiner un petit peu, qu'on la voit?
Alors c'était une femme assez petite, avec des cheveux courts, bouclés. Voilà, elle a vraiment on a quand même tous des traits de visage d'elle. Elle ressemble, enfin ses fils ressemblaient vachement à elle, et puis nous on ressemble vachement à nos pères.
Le côté tesson a pris ouais, le voilà. Dessus sur l'aspect visage.
C'est ça, exactement. Et puis voilà, avec souvent des habits, des robes qu'elle achetait au marché, pareil sur le marché de mon plaisir. Donc c'est le souvenir que j'ai moi. Après voilà, peut-être que d'autres auront d'autres souvenirs, mais en tout cas le souvenir que j'ai, c'est ça.
Donc toi, quand tu étais plus jeune, tu allais souvent là-bas, tu passais quelques jours, ou c'était des visites avec les parents? Est-ce que t'as des petits souvenirs avec elle?
Les souvenirs que j'ai, en fait, on a vécu, nous, enfin, moi, j'ai vécu 5 ans sur Angers. Ensuite, on est parti en frontière Loire-Atlantique, là, à côté de Nantes, mais toujours dans le 49 pour le travail de mes parents. Et en fait, ces 5 premières années, j'ai des vagues souvenirs, surtout au jardin avec les cousins où on jouait dans la baignoire alors que c'était rempli d'eau froide sur les bassines pour mince arroser le jardin. Donc il y a ça, il y a les parties de foot où elle nous regardait du haut de son balcon ou de sa fenêtre de l'autre côté quand il y avait un souci.
Ça, on la voit bien, la petite surveillance de la grand-mère
premier
sur
étage.
Ce qui se passe en dessous, sur le parvis. Quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment cette image-là que j'ai le plus. Et puis voilà, elle était quand même très souriante, elle nous laissait faire beaucoup de choses. Quand il pleuvait, on faisait un foot dans le couloir. Faut nous laisser faire. Enfin, franchement, elle était adorable sur le peu de moments que j'ai vécu avec elle. C'était vraiment une mamie poule, quoi.
Ouais, c'était un espace de liberté, quoi, pour vous. Il n'y avait pas vraiment de contraintes, ou c'était des chouettes moments, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils ont eu quand même beaucoup d'enfants, donc on a été une vingtaine de cousins cousines. Donc quand on se rassemblait tous, c'était quand même très impressionnant dans le salon, etc. C'était un tout petit appartement pourtant, mais et voilà, ça passait. Et puis nous, en tant qu'enfants, c'était de très bons souvenirs, quoi.
Et alors, du côté de l'autre côté, du côté de ta maman, donc ta grand-mère, c'est Raymonde. Elle vit où, Raymonde, aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est?
Alors, Raymonde, maintenant, elle vit avec mon papy René, qui sont sur Valette depuis 3 ans. Avant, je les ai toujours connus à côté d'Angers, à la Roseraie. Vraiment à la sortie de la Roseraie, dans une maison qu'ils ont créée eux, avec le bâtiment derrière où mon grand-père a travaillé. Et maintenant, pour se rapprocher de nous, ils ont eu deux filles, qui sont du coup mes parents habitent du coup à côté de Valette, et puis sa deuxième fille Armelle qui est aussi sur Valette. Donc du coup ils ont décidé de se rapprocher de nous, et puis en fait on les voit beaucoup plus souvent et voilà.
Ouais, il y a une grande proximité là dans la famille avec tes grands-parents, les oncles et tantes, tes parents.
Ouais, beaucoup plus.
Vous habitez très proche.
Ouais, beaucoup plus du côté maternel. Puis c'est mon grand-père a fait du vélo, donc en fait ma grand-mère a aussi fait du vélo dans sa.
Ça y est, le mot est prononcé là, le vélo est arrivé. Voilà. On va continuer un petit peu après là-dessus. J'avais hâte.
Et du coup, en fait, ça, c'est aussi pour ça. Voilà, c'est on est très proche, ouais, du côté maternel, ouais.
Alors, parle-nous un petit peu de Raymond, qui allait, dessine-la nous un petit peu comme tu as fait pour Annick.
Ouais. Alors, mamie Raymond, donc, c'est quand même une femme qui a aussi du caractère, mais différemment. C'est un caractère qui est décideur, qui emmène les choses quand même. Mon grand-père est un peu suiveur dans la famille. C'est pas négatif du tout, c'est comme ça. Elle entreprend beaucoup de choses. La semaine dernière, par exemple, puis cet après-midi aussi, elle vient m'aider pour la rénovation de ma maison, pour le papier peint, qu'elle adore faire. Elle était couturière. Elle y est encore aussi pour nous quelquefois. Très forte dans son domaine et on la connaît aussi beaucoup pour ça. Elle a cousu beaucoup pour nos amis, etc. Voilà, c'est une femme qui est pas très grande, qui a aussi les cheveux courts, qui aime bien s'habiller, toujours être un peu à la mode, à nous faire rire un peu.
Coquette.
Ouais, carrément. Quand elle sort, etc. Elle est très coquette, donc c'est assez drôle de la voir comme ça. Elle est tout le temps en train de racheter des habits, de racheter des petits trucs par-ci par-là. Voilà.
Oui, il y a de la joie dans la coquetterie. On imagine de la couleur et puis vouloir aussi être joli, quoi. Ouais. Soit pour un homme ou une femme. Et moi, j'y vois de la joie, quoi, de la joie de vivre.
Oui, complètement. Elle est épanouie et puis de plus en plus parce que elle dit qu'il faut profiter de l'instant, il faut profiter des moments qui restent. Donc en fait, elle vit la vie, elle croque la vie à fond. Donc que ça soit dans la décoration de sa maison. Voilà, comme tu dis, il y a de la couleur. Quand elle parle, il y a de la couleur dans les envies. Enfin, on lui demande n'importe quoi, elle est prête à tout. Enfin, non, c'est super.
Et son métier de couturière, elle l'a exercé dans quelles circonstances, dans quelle structure ?
Alors, en fait, elle était couturière à la maison, à domicile. Elle travaillait pour des magasins sur Angers, comme Un Jour Ailleurs, d'ailleurs, qui était, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, le quand on allait chez elle, elle avait vraiment une salle, une petite pièce exprès. Il y avait des vêtements de partout. Et puis même le week-end, quand elle avait un petit moment de libre, elle y allait, elle avançait. Enfin, il y avait pas vraiment d'heure fixe. C'est elle qui faisait ses journées comme elle le sentait. Et on a toujours. Enfin, moi, je l'ai toujours connue dans ce monde-là, dans ce milieu-là, et elle est très forte.
Et c'est une activité passionnelle pour elle, tu le sens comme ça ?
Ouais, complètement. Elle a appris aussi à ma sœur à coudre, ma sœur qui s'est lancée dans un petit projet personnel là, de déco. Et elle apprend aussi, elle aime aussi transmettre cette passion. Et puis, comme je le dis, je le répète, mais elle est toujours OK pour n'importe quel projet de couture, quoi. Que ce soit pour des rideaux, pour des vêtements, pour mes maillots de vélo aussi, enfin... Ça a été,
Elle est très aidante pour vous.
Ouais, complètement. Surtout moi, en plus, où j'ai quand même souvent besoin de quelqu'un pour m'emmener à l'aéroport, à la gare, ou en liant avec mon métier. En fait, c'est souvent eux qui font le déplacement parce que du coup, ils sont en retraite. Mais il faut le reconnaître, ils sont très, très disponibles pour nous.
Et ta relation avec elle, comment tu l'as définie ? Est-ce que vous êtes reliés quand tu étais enfant ? Tu as des souvenirs particuliers ? Est-ce que c'est dans la vie d'adulte ou cette nouvelle proximité géographique qui a créé un lien ? Comment tu peux définir un peu cette relation avec elle, avec Raymond ?
En lien, en fait, depuis, je dirais que je suis devenu un adulte, ça s'est quand même beaucoup plus renforcé. Moi, étant jeune, j'étais souvent sur les compétitions de vélo, même si elle a essayé d'être présente. Mais je vois la différence entre le moment où j'ai eu cette révélation de me dire, bah oui, c'est ma grand-mère, c'est mes grands-parents, il faut que je les vois plus souvent, ils sont importants, je m'en rends compte, etc. En fait, avant, ça reste papy, mamie, et puis on y allait pour les gâteaux, pour passer le dimanche soir, ou voilà. Mais je trouve que maintenant, il y a quand même un lien plus maternel, ouais.
Oui, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais quand on est enfant, c'est un petit peu des moments obligés, ancrés dans les habitudes familiales, et après il y a une relation humaine plus décidée, plus forte qui se crée dès lors qu'on est adulte. C'est un petit peu ça qui s'est passé.
Ouais, exactement. Bah comme tu dis, tu y vas pour les repas de famille, pour les Noëls, pour les anniversaires, et puis c'est obligé, et puis voilà, c'était pour retrouver les cousins, etc. Mais ouais, maintenant qu'on partage des choses que entre nous, en tout cas. Bah du coup tu crées un lien différent qu'un lien enfantin. Ouais.
Et donc tu as mesuré à un moment donné l'importance que ta grand-mère et tes grands-parents en général avaient pour toi dans ta vie, dans ton équilibre.
Ouais complètement. Il y a eu des courses où il y avait personne de mon entourage et qu'il y avait que mon grand-père et ma grand-mère, et puis bah toujours un petit bisou avant le départ, ça a toujours été son petit truc, les encouragements, je les entends, enfin, ouais, c'est un lien différent, ouais.
Ouais, ce support-là, dans le moment de compétition, de voir un repère comme ça, familial, fort, lointain, il est puissant, il est important.
Ouais, et puis il se déplace partout en France, ouais, c'est important. Et
ouais,
puis,
c'est un engagement aussi pour eux.
C'est ça, puis c'est aussi de la reconnaissance. Tu te dis, bah, ils ont fait le déplacement, et bah, en fait, ça te pousse à te dire, bah, ok, je cours pas pour eux et je veux pas des résultats pour eux, mais je me dois de me donner à 100% pour les remercier du déplacement et des efforts financiers, comme du temps, etc., qui prennent.
Tu parlais de ton grand-père tout à l'heure qui faisait du vélo, donc le lien au vélo, c'est venu par l'aspect familial, par ce côté-là de la famille, ou c'est toi, ton goût, ta passion qui a amené un petit peu le vélo dans la famille?
Bah en fait, mon grand-père a fait du vélo, assez tardif, mais il a fait du vélo, il en faisait quand j'ai commencé. Il était en compétition, et ensuite il a été président du GPCA, un club angevin. Qui est toujours actif, et du coup il m'a mis sur le vélo à l'âge de 3 ans et demi, donc en fait ça n'a même pas été mon choix, c'était voilà, ils ont essayé, puis ben, en fait j'ai toujours fait que ça.
Et toi tu t'es senti tout de suite bien cet état là sur le vélo, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pas trop de souvenirs quand mes premières compétitions, j'ai des petits flashbacks, je me suis jamais dit je vais arrêter le vélo pour faire un autre sport. Je me suis toujours dit c'est le sport, c'est mon sport, et je le fais à 100%, et par bonheur j'ai pu passer professionnel, mais en tout cas j'ai toujours fait que ça, et c'est grâce à mes parents, grâce à lui aussi, parce que c'est lui qui a fait amener cette passion du vélo dans la famille, donc voilà.
Alors Jason, je me souviens, on s'était parlé il y a 2 ou 3 ans dans un autre contexte pour un entretien pour un média sportif sur des questions un peu liées à l'intimité, à ton lien au vélo, et je me souviens de quelque chose de très, très marquant et très beau. Tu m'avais parlé d'un objet fétiche que tu avais qui était, je crois, une bague offerte par ta grand-mère que tu portes sur chaque course. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet objet, de ce cadeau qu'elle t'a fait?
Ouais, c'est une chevalière qu'elle a eue dans ses premières années de sa vie. De mémoire, je crois que c'était à ses 18 ans. Voilà, c'est une chevalière où c'est écrit RB pour Raymond Bourneuf. Et elle m'a offert ça quand j'étais jeune, quand même. Donc j'ai toujours eu une chaîne à mon cou. Je l'ai encore. Et ouais, c'est important pour moi de garder cette chevalière, parce que elle symbolise quand même beaucoup, surtout quand elle partira de ce monde, donc c'est important pour moi de toujours l'avoir, je l'ai toujours eu, et puis même pour elle, je sens que, enfin, elle le voit tout le temps, elle sait que je l'ai sur les courses, si je l'ai pas, elle va le voir, ça c'est sûr, mais en tout cas j'ai pas fait beaucoup de courses sans l'avoir. À chaque fois c'était parce que je pense qu'il y avait une chute ou des pansements qui ça me gênait, mais voilà, du moment où je peux la porter, en fait je la porte H24, même dans la vie de tous les jours, et, Ouais, c'est un symbole et c'est un objet important pour moi.
Tu avais quel âge quand elle te l'a offert ?
J'avais entre 12 et 14 ans, pas plus.
Et tu te souviens d'un discours ? Elle a donné un sens à ce cadeau ou c'était comme ça, quoi ?
Non, en fait, elle l'a offert à ses deux petits-fils, à Corentin, mon cousin, et moi. Et je sais pas, en fait, au tout début, je me suis dit, bah cool, une bague, je vais la mettre à mon doigt. Enfin, en fait, je me rendais pas du tout compte du symbole. Et puis ça a été très vite où je l'ai mis, du coup je l'ai mis à ma chaîne autour du cou. Et puis après je me suis dit mais ça faut la garder à vie quoi. Et du coup elle restera avec moi toute ma vie, ça c'est sûr.
Elle symbolise quelque chose de plus grand que cette grand-mère. Elle symbolise le lien familial dans sa globalité peut-être.
Bah je me dis que c'est un objet. Si elle nous l'a donné, c'est que ça lui tient à cœur à elle. Ce qui lui tient à cœur, me tient à cœur, nous tient à cœur. Quand on t'aime une personne et que c'est très très proche, bah oui, ça devient plus qu'un objet, ça devient un souvenir, aussi un porte-bonheur. Quand je l'ai pas, je me dis mince, je l'ai pas quoi. Je veux pas me dire.
Il y a un vide.
Ouais, c'est ça. Je me dis pas que je vais louper ma course mais il me manque un truc quoi. Il me manque un truc et. Et puis ça me perturbe quelques instants. Hein. Je ne vais pas dire que ça va tout rechambouler, mais quand je l'ai, bah voilà, je suis bien. Quoi. Je sais qu'elle est avec moi.
Oui, et on connaît l'importance des repères mentaux, des choses qui donnent confiance dans le sport de haut niveau, et ça a un vrai impact. Et toi, cet objet-là, peut-être qu'il te donne une force, une petite force supplémentaire.
Ouais, c'est exactement ça. C'est un équilibre. Tu te dis, c'est bon, j'ai tout. Je peux partir serein, alors que si je ne l'ai pas, bah je vais quand même me le dire. Je vais pas, ça ne va pas durer toute la course, ça ne va pas durer 15-20 minutes, mais je vais me dire, mince, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Quoi.
Bon, je sais que dans le sport de haut niveau, vous travaillez beaucoup avec des préparateurs mentaux, en plus des autres aspects. Est-ce que cet objet-là, il entre aussi des fois dans des conversations où le lien familial, le lien à la grand-mère, pour aller chercher des motivations ?
Ouais, bah, on me demande souvent... Qu'est-ce que ça représente, si c'est juste un objet de déco, j'ai aussi quelques blagues dessus, et quand j'explique en fait d'où ça vient, bah du coup la blague est un peu moins drôle, mais ils ont toujours peur aussi que...
Les coéquipiers, tout ça, ouais. L'entourage, ouais, d'accord. Okay.
C'est ça, exactement.
Oui, dès qu'on voit que quelqu'un a une petite obsession, entre guillemets, on va un petit peu trifouiller là-dedans, et puis ça peut être drôle, mais au moins c'est l'occasion de leur expliquer.
Ouais, c'est ça, et puis il y a beaucoup de personnes aussi maintenant qui sont au courant et qui savent ce que ça représente pour moi, donc ouais, comme tu viens de le dire, ça permet aussi d'expliquer et puis de parler et de
dire qui on est, quoi.
Ouais, exactement.
Raymond, donc tu avec ton grand-père, tu disais qu'elle venait souvent dès que possible sur des courses. Est-ce que il y a beaucoup de conversations autour du vélo, autour de ta carrière? Est-ce qu'elle est inquiète aussi? Je dois dire aussi aux néophytes du vélo que toi tu es un sprinter, donc c'est des moments très massifs d'arriver. On est collé, on va très vite. Il y a toujours un petit danger, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle est inquiète?
Oui, bah en fait. Du moment où il y a du danger et qu'il peut y avoir de la chute, oui, tout ton entourage est inquiet ou stresse, mais oui, on parle très souvent du vélo. Mon grand-père est fan de ça et vit un peu la carrière qu'il n'a pas eue envers moi, je pense, à l'image de ce qu'il aurait voulu faire et être. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, et moi ça me fait plaisir de partager ça avec eux. Quand ma grand-mère vient, bah voilà, je le disais, elle me fait toujours un bisou avant de partir. C'est son petit rituel, c'est notre petit rituel, c'est ce qu'elle aime. Et je pense qu'aussi, y a toujours une discussion due au vélo, parce qu'en fait c'est ma vie, c'est ma carrière, et puis ça tourne souvent autour de ça. Et maintenant aussi avec ma copine qui fait également du vélo, donc en fait ils sont à fond là-dedans, ils sont à fond avec nous, et ouais, c'est quand même beau d'avoir des grands-parents qui sont aussi proches de nos projets. Ouais.
Et ils vous suivent tous les deux, du coup, toi et ta copine aussi,
ouais.
Ils suivent un peu vos parcours, vos carrières.
Ouais, c'est ça, et puis ils sont complètement demandeurs de nous aider, quoi. S'il faut nous emmener quelque part, s'il faut nous Même, voilà, ils nous ont aidés aussi pour acheter, acheter des vélos, enfin, voilà, qu'on a remboursé ensuite. Mais ils sont quand même hyper présents dans nos objectifs et dans nos projets. Ouais.
Est-ce que aussi c'est l'objet vélo et au-delà du côté compétitif, est-ce que l'objet vélo est quelque chose qui réunit la famille sur des balades, sur voilà le côté contemplatif ou balade, c'est quelque chose que vous aimez faire aussi?
Ouais, bah j'attendais ce moment. En fait, faut savoir que ma grand-mère a été beaucoup marcheuse dans sa vie. C'était le sport qu'elle adorait parce qu'elle pouvait papoter avec ses copines, etc. Et puis à la retraite, bah elle s'est mis au vélo. Grâce à mon grand-père. Elle a fait quand même beaucoup beaucoup de kilomètres. Elle a traversé la France en vélo avec ses copines.
Ah oui, donc ils ont entrepris aussi des beaux et grands voyages à vélo, sans que ce soit la vitesse, mais traverser des territoires, des paysages à vélo, partir en voyage à vélo, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils ont fait quand même beaucoup de kilomètres tous les deux. Elle aussi. Et puis, moi, j'ai eu la chance quand j'avais 14 ans. J'étais en minime pour les catégories de vélo. Et je suis parti avec eux une semaine pour faire la semaine fédérale. C'était à Niort. Donc, on dormait. Enfin, moi, je dormais dans leur camping-car avec eux. On a fait une semaine. Et en fait, c'est la semaine fédérale. C'est une semaine de vélo où il y a des milliers de personnes, des milliers de passionnés de vélo, de cyclotourisme. Et d'avoir vécu ça une semaine avec eux, où on se levait, petit-déj, vélo, on rentrait, apéro avec leurs amis. Et voilà, c'était vraiment un camp incroyable. Et c'était une semaine de...
Ah oui, c'est le grand moment, la grande réunion des cyclotouristes. Donc ça, c'est un moment un peu fondateur aussi que vous avez vécu ensemble autour du vélo. Vous avez partagé la passion, quoi, pour le vélo.
Ouais. Ouais, exactement. J'ai vécu quand même. Enfin, je vis quand même pas mal de choses avec eux. J'ai vécu ça avec l'histoire de la France à Niort. En tout cas, on a fait plein de voyages toute cette semaine-là, on partageait et on allait visiter tous les endroits historiques, campagnes, etc., culturels de cette région. Et puis, on a aussi vécu beaucoup de. Enfin, on en parle souvent. Moi, je suis un fan d'histoire française et Europe. Ils m'ont emmené à Oradour pour aller de très bonne heure d'ailleurs. J'avais une dizaine d'années. J'y suis retourné après depuis, mais la première fois que j'ai été dans un lieu historique de la guerre, c'était avec eux. On en parle aussi souvent. Ils ont beaucoup d'objets aussi de leur arrière-grand-père, grand-père, grand-mère, père et mère que je vais garder et que j'espère. J'espère pouvoir garder aussi une fois qu'ils seront décédés, mais on a vécu quand même beaucoup, enfin on vit quand même beaucoup de choses et
c'est très intéressant aussi ce lien à l'histoire, c'est une autre passion commune et le vélo peut être prétexte aussi pour permettre d'aller visiter des endroits comme ça chargés d'histoire qui vont on peut relier deux passions qui a priori sont lointaines, quoi.
Ouais, exactement, ça permet de vivre deux passions différentes et puis de parler, en fait. On est quand je suis chez eux, il y a jamais de blanc où on regarde, j'ai pas de souvenir où je me cale dans le canapé et je suis avec mon téléphone ou devant la télé, enfin c'est très rare, on a toujours des discussions, quoi.
Ouais, toujours très riche, très intéressant.
Ouais, c'est ça.
Alors Jason, c'est passé très vite, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand maternelle. Un grand merci d'être venu partager tout ça dans le studio de Radio G.
Ouais, c'était un grand plaisir et puis je suis pressé qu'elle écoute, ça va être sympa.
Merci beaucoup Jason, merci à toutes, merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine et comme d'habitude, on se quitte avec un texte choisi et lu par notre invité. Il s'agira un petit peu de Fête des grands-mères.
Oui, je tiens à te remercier pour cette invitation et comme tu le dis, je vais finir avec mon petit poème que j'ai choisi qui représente beaucoup... Beaucoup de petits symboles pour elle. Une grand-mère, c'est doux comme une tartine au miel, tendre comme une madeleine, lumineux comme le bleu du ciel, soyeux comme une pelote de laine. Je ne peux pas t'acheter de gros cadeaux, ni te cuisiner un délicieux gâteau, mais il n'y a pas d'âge pour dire je t'aime et t'écrire un joli poème. Bonne fête des grand-mères.